Vous n'en croirez pas vos yeux. C'est l'intitulé de l'exposition qui est visible actuellement à la Maison du Saumon. Et c'est une exposition extrêmement intéressante dans ce qu'elle donne à voir sur, eh bien, on va dire, les cultes à l'époque romaine, mais situés à Chartres. C'est comme ça que ça s'est voulu, Julia?
Oui, tout à fait. En fait, nous présentons dans l'exposition plus de 200 objets qui sont issus de fouilles menées à Chartres depuis une quarantaine d'années sur une trentaine de sites différents. Et notre discours repose vraiment sur ces découvertes, ces objets. C'est-à-dire qu'on ne va pas expliquer de manière exhaustive ce qu'est la religion romaine, mais vraiment s'attacher à faire un retour, une présentation sur les pratiques des Autrichies à partir de ces objets.
30 chantiers, ça montre à quel point le service municipal d'archéologie de Chartres est vraiment très très actif. Et il a raison de l'être parce que les découvertes sont à la hauteur des recherches, Dominique Joly.
Oui, 30 chantiers, encore, ça n'est qu'une partie de ce que nous avons fait depuis 40 ans, puisque les objets sélectionnés viennent de sites qui ont livré ce type d'objets, mais on est intervenu sur beaucoup d'autres chantiers, bien sûr. Et ces 30 chantiers, ces 200 objets, parlent tous des croyances, nous enseignent tous, donnent tous des informations sur les croyances à l'époque gallo-romaine.
Alors, on va faire la petite balade ensemble. Vous allez éclairer notre lanterne et on garde le meilleur pour la fin. Et je crois que c'est ainsi que se déroule la visite. C'est le sens de la visite. On tombe sur une découverte absolument exceptionnelle qui a été faite par Dominique Joly il y a quelques années. Et ça, c'est évidemment le petit chef-d'œuvre à la fin de l'exposition. Mais tout d'abord, on est là devant un présentoir, honorer les dieux de la cité. Car on honorait les dieux, évidemment. Il y avait de nombreux.
Oui, il y a le panthéon gréco-romain, il était présent partout. On appelait les dieux à la rescousse quand on avait besoin, quand on avait un souci, mais on leur rendait hommage aussi quotidiennement pour que leurs bienfaits soient permanents auprès des civils, auprès des populations publiques et auprès des magistrats, puisque c'est les magistrats qui payaient les édifices publics et qui de leur denier et qui offraient un arc de triomphe, un amphithéâtre, un forum, etc.
Pas de laïcité à l'époque.
Mais non, il n'y avait pas de séparation de l'Église et de l'État. Les dieux étaient partout.
Alors, par contre, les Romains étaient accueillants aux dieux des autres, hein.
Oui, c'est ce qu'on croit deviner, mais c'est vrai que la religion romaine, elle a écrasé toutes les autres à partir du moment où Auguste a décrété que la Gaule était devenue romaine et qu'on construisait à la romaine et qu'on honorait les dieux romains. Alors, dans le cœur des hommes, ils ont dû associer les divinités anciennes avec les divinités nouvelles et faire un syncrétisme, un regroupement. Mais quand on invoquait en public un dieu, c'était le nom romain, c'était pas le nom gaulois. Ça aurait été mal vu.
Alors, il y a très jolis objets évidemment en face de nous. Ils ne sont pas que jolis, bien sûr, ils sont pleins de sens, pleins de signification. Là, je vois par exemple un caducée, mais il est vraiment intact, ce petit caducée.
Oui, il est en argent. Il est un peu bricolé, je dirais. C'est une épingle et puis un petit serpent qui a été entouré. Il n'est pas en un seul morceau. Il a été trouvé sur le site dit de Saint-Martin-en-Val, à côté du sanctuaire, dans un endroit où on avait récupéré des matériaux métalliques pour les refondre. Et celui-là, malheureusement pour nous, il n'a pas été refondu. On peut penser que, comme il est assez petit, il fait 10-12 cm de haut, qu'il était figé sur une petite statue de Mercure qu'on n'a pas retrouvée, évidemment, qu'elle pouvait être en pierre ou en bronze, mais c'est donc sans contestation possible l'attribut de Mercure.
Il y a là un oursin fossilisé. Pourquoi avoir mis un oursin fossilisé?
Alors, l'oursin, il fait partie de toute une série d'objets avec les haches qui sont là, qui sont trouvés dans un petit sanctuaire de quartier, Place des Éparts, sur la fouille faite en 2003-2004 sous la direction de l'INRAP. Et les objets sont assez curieux parce que tout le plateau inférieur là montre deux oursins fossilisés qui ont été associés à une hache préhistorique en matière verte très ancienne, à une hache plus récente, à un objet qui ressemble à une hache mais qui n'en est pas une, à une hache en cuivre d'époque sans doute de l'âge du fer, à une petite hache miniature en bronze qui est, elle, romaine, et puis il y a quelque chose qui ressemble à une hache, mais qui est un couteau cassé. Donc tous ces objets-là sont curieux. On les verrait côte à côte sans savoir qu'ils ont été trouvés au même endroit. On les séparerait immédiatement en les classant comme on sait bien le faire, les haches d'un côté, les objets en bronze de l'autre, etc. Alors que tout ça était au même endroit, dans un petit temple de quartier, et ça devait avoir une signification pour les officiants de ce temple-là.
Alors, il y a là notamment aussi un petit Mercure. Est-ce que vous pouvez nous rappeler qui était Mercure, peut-être Julien ?
Alors, Mercure et ou Hermès étaient donc le dieu des routes, des frontières, des marchands et des héros. Et ce petit caducé est un symbole de paix, puisque la légende dit que Mercure a séparé avec son bâton sur un chemin de serpents qui s'attaquaient et que ceux-ci se sont enroulés autour de son bâton. Voilà, donc là on a vraiment une représentation de ce dieu romain, mais on a aussi d'autres objets qui montrent les pratiques religieuses et notamment des ex-voto qui étaient donnés en guise de remerciement, l'exécution d'un vœu. Voilà, on a aussi, pour faire le lien avec le site de Saint-Martin-au-Val dont Dominique a parlé tout à l'heure, quelques éléments de statuaire qui sont aussi importants et qui nous indiquent aussi les dieux qui ont pu être honorés à Autricum, puisque nous avons là un pied d'Apollon, mais également un buste de Diane, donc le frère et la sœur, représentés ici à travers de la statuaire.
Ah, on va aller un petit peu plus loin. Et alors là, il y a toute une gamme d'objets sous le thème honorer les dieux dans la maison, parce qu'il y avait des manifestations donc officielles, mais on continuait ensuite, en rentrant chez soi, d'honorer les dieux, c'est ça ?
Oui, ça fait référence au larère, les petits autels particuliers qui sont dans toutes les bonnes maisons, et sur lesquels on fait des offrandes, on brûle de l'encens, on sacrifie un morceau de volaille ou un morceau de porc, et puis on pose des petites statuettes qui sont faites en série, dans des moules, et qui qui apportent une aide à la famille, à la maison. Alors ça peut être la chouette d'Athéna, ça peut être un chien, ça peut être un singe, même on a ici un morceau de singe qui renvoie à Mitra. On a un cheval, on a différents objets. Quelquefois, c'est la déesse mère qui allait, donc c'est symbole de fécondité. Et puis, quelquefois, on a d'autres symboliques qu'on ne comprend pas toujours. Mais ce sont les pratiques familiales. Étant donné qu'on devait à peu près tous les jours avoir une pensée, s'arrêter, brûler un peu d'encens sur ce petit autel de la maison. Dans toutes les maisons, on a ces larères. À Chartres, on en a trouvé quelques-uns. On commence à identifier des bases de larères, donc petits hôtels particuliers qui se trouvent dans les maisons.
Parlez-nous des petits Rhésus, là. Ils sont adorables.
Alors, le Rhésus, c'est un petit personnage chauve. C'est un enfant qui sourit. Et c'est une image qui est utilisée pour, paraît-il, empêcher les bébés de pleurer et les protéger des dangers.
Et puis là, on voit une toute petite statuette d'un dieu qui reste encore indéterminé. Donc, il y a encore plein de choses aussi à apprendre.
Alors celui-là, oui, c'est peut-être Mercure, c'est peut-être Apollon. Il est tout petit, il fait 4 cm de haut, donc il est assez fruste. Et on n'a pas le détail de sa représentation, mais ça représente une divinité, il n'y a aucun doute.
Alors, vous avez parlé tout à l'heure de la déesse mère. Elle est assise dans un fauteuil, elle donne le sein à un enfant. Est-ce que la figure de la déesse mère qu'on rencontre un peu partout, est-ce que c'est à l'origine finalement des statues de la Vierge Marie, par exemple ? Est-ce qu'il y a un pont ?
Non, on peut pas faire le pont. Parce que la Vierge Marie, on fait référence plutôt à Isis. Certains le font, après on est certain de rien. Mais là, la déesse mère, c'est une déesse familiale. C'est même pas une déesse, c'est une mère. On les appelle déesse mère, mais c'est une mère bienveillante. C'est pas forcément une déesse, elle n'est pas nommée, elle n'est pas identifiée en tant que déesse.
Est-ce que les déesses mères figuraient dans le panthéon gaulois ?
Oui, enfin, on dit qu'en Gaule, effectivement, comme disait Dominique, les mères sont honorées et donc ça fait partie des pratiques anciennes aussi et qui perdurent. Ce qui est important aussi de souligner, parce qu'on connaît bien dans nos livres d'histoire, on se souvient des dieux lars ou des dieux pénates qui protègent le foyer et les réserves de la maison. Là, nous n'avons pas, nous, à Chartres, trouvé de traces traces de ces divinités-là. Par contre, comme on peut le souligner, on a une superstar, hein, Dominique, qui est quand même Vénus, puisqu'on a retrouvé beaucoup de statuettes, de morceaux, hein, des fragments de statuettes de Vénus, et qui étaient apportées par la future épouse dans la maison de son mari. Et donc, elle est symbole de désir, bien sûr, entre les époux, mais aussi, du coup, de fécondité et de bonne entente dans le couple et par extension dans la famille. Donc, on la retrouve ici sous des différentes formes. On a des morceaux de tête, des jambes, des bustes, un petit autel. Voilà, donc on sait là aussi que cette déesse était beaucoup honorée à Outricum.
Finalement, on est aussi renseigné sur les pratiques sociales de l'époque grâce aux dieux. Hein.
Oui, puisque les dieux étaient omniprésents, c'est eux aussi les objets qui leur font référence, qui nous renseignent sur ces pratiques-là.
Comment on honorait les dieux? Est-ce qu'il y avait des prières très précises? Est-ce qu'on les connaît? Ou est-ce que c'était laissé à la libre inspiration de chacun? On le sait, ça.
Je crois que c'était, comme vous venez de dire, laissé à la libre appréciation de chacun, à la différence de la religion chrétienne où il y a une croyance. Il y a une croyance en un dieu, en une vie dans l'au-delà. La pratique de la religion à l'époque romaine, c'était d'assurer ses offrandes et de suivre les rituels, de faire les gestes, de prononcer les paroles. Que la personne croit ou ne croit pas, ça n'était pas vérifié, on ne demandait pas. On devait apporter son soutien et faire les bonnes pratiques au bon endroit, au bon moment. On n'avait pas d'engagement de foi. C'est complètement différent de la religion chrétienne.
Est-ce que les Romains croyaient réellement en leurs dieux, ou est-ce que ces dieux symbolisaient finalement des puissances ou des vertus? Pourquoi pas?
Ça, c'est difficile de le dire. Mais c'est dans l'exercice de la religion que justement on peut voir qu'on ne leur demandait pas d'attester leur foi. On ne leur demandait pas de prouver qu'ils croyaient en quelque chose.
Alors, les cultes étrangers et le mauvais œil, on se rapproche petit à petit de la magie. On croyait au mauvais œil?
Oui, ah oui, bien sûr, parce que le mauvais œil, ça pouvait être lancé par un voisin, par le coup du sort ou par la malchance, tout simplement. Et il fallait se conjurer le mauvais sort. Et à nouveau, les objets de la vie quotidienne, moins caractéristiques et moins figuratifs que ce qu'on vient de voir, comme les statuettes où on a vraiment l'identification du dieu, on a toute une panoplie de petits objets de la vie quotidienne qui étaient portés sur les vêtements, qui étaient portés sur les équipages. Les chevaux en particulier, parce que transporter des produits, des denrées, etc., c'était toujours plus périlleux. Donc, il fallait protéger l'attelage, protéger les bêtes de trait. Et donc, on avait des pendants de harnais, des objets décoratifs qui rappelaient une divinité de façon un peu secrète, un peu stylisée, pour apporter cette protection.
Finalement, le nombre des amulettes était fonction des dangers qu'on rencontrait dans sa vie, et évidemment, la vie était plus dangereuse à l'époque qu'aujourd'hui.
Oui, bien sûr, il y avait beaucoup plus d'aléas, et on a des objets qui protègent de tel type de risque plutôt que d'un autre.
Allons voir ces objets peut-être, rapprochons-nous.
Par exemple, on a toute une série de pendants de harnais qui devaient être riftés sur les chevaux ou les montures, et dont on sait que les cliquetis ou le son éloignaient le mauvais œil. C'est pour ça qu'on a pas mal de petits pendants en forme de feuilles, en forme de glands, qui ont cette fonction-là. Nous avons aussi des miniatures de glaives. Là, on en voit deux manches en os qui devaient certainement être peut-être déposées par les légionnaires pour leur apporter protection. On a aussi une pratique qui va amuser certains, mais c'est vrai, on a...
J'allais vous poser la question.
Quelques amulettes en forme de phallus ou même de vulve, et qui avaient aussi cette fonction protectrice. Donc là, on a quelques exemplaires. Nous avons aussi des petits boucliers d'Amazon qu'on appelle des peltes, qui sont aussi là présentés dans l'exposition. Donc des petits objets. Je pense que le plus gros doit faire 7 cm de hauteur. Donc ce sont vraiment des objets, des accessoires, comme on pourrait dire aujourd'hui.
Permettez-moi d'en revenir au phallus, excusez-moi, ça nous renseigne quand même sur le rapport peut-être à la sexualité. C'était très libre, finalement, ça n'a rien d'obscène pour les Romains.
Non, ça n'a rien d'obscène, puis ça ne renvoie pas à la sexualité, en l'occurrence le pendentif en forme de phallus. C'est un objet protecteur. On oppose le phallus à un mauvais œil ou à une menace. Sur certaines maisons à Pompéi, on peut en voir encore qui sont dans les murs, sur les murs des maisons, en hauteur. C'est pour éloigner la méchanceté et le mauvais sort.
En tout cas, la masculinité, les vertus de virilité sont portées en avant, là.
Oui, là, c'est très fort, oui.
En fait, ce n'est pas tabou dans leur culture, et elles ont vraiment cette fonction protectrice que nous ne leur attribuons pas, mais il n'y a pas vraiment, effectivement, comme le soulignait Dominique, un rapport direct à la sexualité.
Les bagues et monnaies, images des dieux. Alors là, les monnaies nous renseignent aussi sur les dieux, sur aussi l'époque où finalement où les découvertes ont été faites, parce que les empereurs figurent sur les monnaies.
Oui, effectivement. Alors là, on a tout un échantillon, une présentation de différentes monnaies qui datent toutes du 1er jusqu'au 3e siècle après Jésus-Christ. Nous avons donc certaines monnaies qui représentent sur un côté donc l'empereur, mais et sur le revers des effigies ou des rappels, des allégories qui pouvaient être honorées à l'époque. Donc je vais les citer de manière très pêle-mêle, hein, mais le génie du peuple romain, la liberté, la victoire, la fortune, la concorde, la paix. Donc ce sont vraiment des dessins qu'il faut regarder sur les monnaies. D'ailleurs, vous avez en dessous de la monnaie souvent le dessin un petit peu grossi pour bien voir les attributs de chacune des allégories. Mais ce n'est pas tout. Il y a aussi des intailles qui pouvaient être enchâssées dans une monture de bague. Toutes ne sont pas présentées dans des montures, puisqu'elles pouvaient être aussi peut-être associées à d'autres bijoux. Mais là, vous voyez aussi des représentations d'allégories ou de dieux gravées donc sur ces intailles qui peuvent être en différentes matières, en pâte de verre ou aussi en elcatolite, excusez-moi, mais ça veut dire la pierre de lune. Voilà.
Il y a un Mars, notamment. Mars était un des dieux principaux, j'imagine, dans une société guerrière comme celle de Rome.
Mars, mais aussi Jupiter, quand même, hein, qui est le dieu des dieux. Donc, nous avons aussi sur une intaille un très beau Jupiter représenté avec ses différents attributs, notamment un oiseau à ses pieds, peut-être l'aigle. Il est drapé, il a aussi du coup un sceptre à sa main gauche. Enfin voilà, donc on a différents indices qui nous signalent quels sont les dieux représentés.
On n'a pas dit à propos des cultes étrangers. Donc quels étaient les cultes étrangers à Rome qui étaient pratiqués
Ça variait avec le temps. Ça varie avec le temps parce que les cultes orientaux sont venus assez tôt avec Isis. À Rome, dès le milieu du 1er siècle, si je ne me trompe pas, on avait déjà le temple d'Isis à Pompéi, il était aussi présent. Et puis dans le courant du 3e siècle, c'est les cultes de Mithra qui est véhiculé par les empereurs guerriers sur le limès rhénan. Et là, on a des cérémonies plus sanglantes que celles d'Isis avec les sacrifices aux taureaux et des mitréums. On a un mitréum pas loin dans les Yvelines, à l'époque ici, qui était trouvé à, je ne me rappelle plus le nom, donc des temples dédiés à Mithra avec des sacrifices de taureaux où quand on consacre un légionnaire gradé, il se tient dans une fosse et on égorge au-dessus de lui un taureau. Il faut qu'il soit complètement recouvert de sang et là il est consacré à Mithra. Mais ça c'est plutôt dans le 3e siècle. Après il y a d'autres cultes qu'on connaît assez mal qui tournent autour des divinités égyptiennes tardives ou des divinités grecques qui sont remises au goût du jour. C'est assez confus. L'étude des cultes dans la période romaine et leur transcription en Gaule, ça fait encore l'objet d'études de spécialistes dont je ne fais pas partie, mais il y a encore beaucoup à découvrir dans les textes et grâce aux découvertes archéologiques aussi. Parce qu'on associe justement, quand on trouve un mitréum en Gaule, les objets, la sculpture, des inscriptions avec les textes qui ne nous disent pas toujours la même chose que ce que disent les objets.
Vous avez parlé d'Isis et d'autres dieux d'origine égyptienne. Ça veut dire que les Romains rendaient un culte à ces dieux ou c'était des gens d'origine égyptienne, je ne sais pas, qui rendaient un culte à ces dieux?
Ah oui, il pouvait y avoir une conversion au culte d'Isis, oui.
Donc on était extrêmement tolérants quand même, je trouve, hein, à l'époque. Hein.
C'est une richesse du coup parce que nous avons des objets qui témoignent justement de ces cultes étrangers.
Des petites clochettes.
C'est un peu la même, symbolique ou la même vertu protectrice que l'on attribue au son des clochettes que celle des pendants de harnais qu'on a décrit tout à l'heure. Donc des petites clochettes qui peuvent être suspendues en grappe au-dessus des seuils de maison et dont le bruit éloignait là aussi le mauvais œil. Et c'est là qu'on s'aperçoit que dans la maison, il n'y avait pas que le larère, qui était le lieu où on figurait, où on représentait les dieux, mais il y a toute une série d'objets ou d'éléments de décoration, de pots, de vases ou de meubles ou d'autres statuettes qui rappellent la présence des dieux dans la maison. On a, bon, je ne vais pas présenter l'ensemble de la vitrine, mais par exemple, une anse de cruche qui représente un satyre et qui est donc qui fait partie du cortège de Bacchus. Oui. Et on a également, pour rappeler Bacchus, une petite panthère, voilà, qui est ici présentée, un petit objet en alliage cuivre également.
Alors moi, il y a un objet qui a éveillé ma curiosité. Je pensais que c'était un chien. On m'a dit que c'est un loup qui dévore un bébé. Il est d'une délicatesse extrême, cet objet. Et on a l'impression qu'il vient d'être fait, quoi. C'est très émouvant, je trouve.
Oui, il est assez fin. Alors on appelle ça loup dévoreur d'enfants ou chien dévoreur d'enfants. Il est vrai que sur cet objet-là, on voit pas vraiment s'il s'agit d'un enfant. Il a quelque chose qui dépasse de la gueule, mais on en connaît d'autres plus grands, mieux figurés. On voit vraiment que c'est un corps humain qui sort de la gueule de la bête. On en a un d'ailleurs dans les collections anciennes du musée qui n'est pas présenté ici, qui est un peu plus grand et qui est plus figuratif que celui-là, plus précis que celui-là.
On en sait sur la signification, on en sait quelque chose.
Je ne crois pas. Je ne crois pas qu'on ait de sens précis à donner à cet objet. Oui.
Encore du grain à moudre. Il ne nous reste plus que 5 minutes. Je voudrais qu'on consacre ces 5 dernières minutes. Les visiteurs auront tout le loisir de se familiariser avec les objets différents présentés dans cette exposition. Mais là, nous allons parler de la grande découverte du service municipal d'archéologie de Chartres. C'est vous qui l'avez fait, Dominique Joly. C'est la fameuse cave ou l'antre du magicien.
Alors, c'est ni une cave ni une antre, c'est une cachette en fait. C'est une cachette souterraine qui faisait 1,40 m de haut, 2 m au carré à peu près, et qui contenait tous les objets de la panoplie de Caius Verius Sedatus, qui était un magicien de la fin du 1er siècle après Jésus-Christ et qui habitait Chartres.
Racontez-nous les péripéties, ça a failli, vous avez failli passer à côté presque. Hein.
Alors, très très vite, oui, le 20 juillet 2005, deux collègues qui faisaient des surveillances de travaux dans des canalisations à côté de la médiathèque sont passés à côté d'un trou qui était fait place des Épars pour construire un escalier d'accès au parking souterrain. Ça faisait 3 jours qu'ils passaient à côté, ils ont vu dans des couches brûlées des objets qui dépassaient, des objets en terre cuite, ils les ont ramassés, me les ont apportés, ils m'ont demandé de leur donner un numéro d'enregistrement. Et m'ont dit on va commencer à les nettoyer. Je suis allé les voir, j'ai vu qu'il y avait un objet qui était un fragment de vase avec un petit serpent sur le bord et un godet brûlant sang, et puis un autre objet en terre cuite qui était gravé de textes inscrits en latin avec un verbe, un sujet, un complément. Et comme je fouillais à Pompéi la semaine d'avant et que j'avais en mémoire les vases aux pratiques magiques de la maison qui portent le même nom à Pompéi, je leur ai dit il faut retourner tout de suite sur le terrain parce que là on tient quelque chose d'assez exceptionnel. Et ils m'ont dit, mais le béton, il coulait à 2 heures. Donc, on est retourné tout de suite. On a arrêté la toupie de béton qui arrivait. On l'a empêché de couler à l'endroit où étaient faites les découvertes. Elle a été coulée à côté dans le trou qui était déjà fait, malheureusement. Et puis, on a fouillé ça tranquillement en septembre. L'intuition était juste puisqu'on a, à la fouille, mis en évidence que toute la cachette était intacte, recouverte par les gravats de l'incendie du 1er siècle et qu'on avait tous les objets, donc plus d'une vingtaine de vases, plusieurs brûlants-sang inscrits, des objets, 3 vases à des corps de serpent, un couteau, et tous les objets qui avaient subsisté, des meubles en bois dans lesquels étaient rangés ces objets. Quand on a eu bien étudié tout ça et bien compris, on s'est aperçu que cette cache enterrée, qu'on appellerait autrement un cellier ou une petite cave dans laquelle on ne tenait pas debout, était vraiment dédiée à cet usage-là de rangement des objets magiques. Pourquoi il fallait les ranger à l'abri du regard? Parce que la magie, les pratiques de la magie étaient interdites. Donc on peut imaginer que Sedatus, il a pratiqué la magie dans un lieu un peu à l'abri, et puis quand il avait fini, il rangeait tous ses objets jusqu'à la prochaine utilisation. Et là, il n'a pas eu le temps d'aller les rechercher, pour notre grand plaisir. Soit il est mort lui-même dans l'incendie, soit il a oublié, soit c'était trop difficile, soit il avait perdu l'emplacement en mémoire. Et en tout cas, c'est resté intact sous les gravats depuis la fin du 1er siècle jusqu'en 2005.
Alors ce fameux vase qui est vraiment, on peut le dire, pratiquement peut-être unique au monde, en tout cas c'est une pièce exceptionnelle qui vous a valu une belle part de succès lors d'un colloque international. Cet objet, que signifie-t-il? Qu'est-ce qu'on peut lire aussi? Quelles sont ses inscriptions?
Alors il y a trois registres inscrits. La première partie, la partie supérieure, c'est la prière. La deuxième partie, ce sont les noms des dieux qui sont invoqués dans la prière. Et la dernière partie, sur le pied, c'est plutôt une psalmodie pour calmer, pour finir la cérémonie. C'est ce qu'on peut imaginer en comparant avec ce qu'on connaît des pratiques magiques de cette période, à partir de ce qu'on appelle les papyrus égyptiens, gréco-égyptiens. On peut imaginer que ça s'est passé comme ça. En plus de ça, sur la partie supérieure du brûle-encens, on a les quatre directions cardinales. Septentrion, le nord, méridien, le sud, occidens, l'ouest, et oriens, l'est. La prière, elle dit ceci. Je vous traduis directement. Je vous demande à vous, les divinités toutes-puissantes, d'apporter tout le bien-être à Caius Verus Sedatus, parce que celui-ci est votre gardien. C'est donc une prière assez courte qui est répétée quatre fois et qui est très explicite, qui dit vraiment: je suis Caius Verus Sedatus, je suis le gardien des divinités toutes-puissantes et je veux que vous m'aidiez. Alors ces divinités toutes puissantes, qui sont-elles? C'est sans doute une référence à ce qu'on appelle l'Agathos Daimon, le dieu tout puissant du cosmos, qui règne sur l'ensemble des divinités dont on a déjà parlé, Jupiter, Minerve, Vénus, etc. Et on l'appelle à l'aide pour le bienfait. Donc c'est une prière magique bénéfique. On connaît surtout des prières magiques maléfiques, des malédictions, mais celle-ci, elle est bénéfique, très clairement. En dessous, on a les neuf vocables H, Echar, Bru, Bros, Korkos, Na, Ana, Drudrax, qui sont les noms des dieux, des divinités secrètes, ou les noms secrets des divinités, que le magicien devait, on le pense, prononcer très très fort dans les quatre directions cardinales à chaque fois pour les invoquer. Et puis à la fin, Alcémédmé, Alcéalar, Alcémédmé, c'est pour refermer l'évocation, la fin, c'est la fin de la cérémonie. C'est plutôt quelque chose qu'on dit sans doute à voix basse. Il faut imaginer que ce brûle-encens, il n'était pas tout seul, puisqu'on a les fragments d'un deuxième, celui qui a été trouvé le 20 juillet. On a les pieds de quelque chose qui doit être pour venir d'un troisième. Et comme il y a les quatre directions cardinales, on pouvait raisonnablement penser qu'on en avait quatre, et qu'ils étaient disposés aux quatre coins de l'aire sacrée dans laquelle on pratiquait les rites magiques. Et on faisait brûler l'encens dans les vases à des corps de serpent, on a le couteau de sacrificateur, on a les os animaux, on a les bouteilles pour verser le vin, l'eau, les parfums, on a les lampes à huile, on a toute la panoplie de la magie telle qu'on peut penser qu'elle était pratiquée.
Merci beaucoup Dominique Joly. Nous sommes obligés de conclure, il faut absolument aller voir cette exposition, vous n'en croirez pas vos dieux, c'est à la Maison du Saumon, c'est au premier étage, l'accès est très facile et libre, on peut voir l'exposition jusqu'au
4 septembre, donc venez nombreux découvrir donc la magie et les pratiques religieuses romaines. Vous avez d'ailleurs à disposition le catalogue de l'exposition pour avoir un petit souvenir en partant.
Merci beaucoup Dominique et Julia.